Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Lequel des miracles de Jésus trouvez-vous le plus incroyable? Vous ne devez pas répondre maintenant, mais réfléchissez un peu. Peut-être celle-là, oui. Alors, c'est en fait la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème. Mais pour rendre la question un peu plus précise, imaginez-vous que vous avez peut-être entendu parler de Jésus, peut-être vous croyez même qu'il est le Fils de Dieu, mais imaginez-vous que vous n'avez jamais lu les évangiles, donc vous ne savez pas ce que Jésus a fait concrètement. Et puis, imaginez-vous que vous rencontrez un de ces apôtres qui était témoin des actes de Jésus au 1er siècle, et il vous raconte maintenant en détail tous les miracles de Jésus. Je suppose qu'il y aura certaines histoires après lesquelles vous direz à votre interlocuteur « Jésus a-t-il vraiment fait cela? Tu l'as vu avec tes propres yeux? Comment ça s'est passé? Et puis, pourquoi aurait-il fait cela ?» Donc j'aimerais parler aujourd'hui d'un événement qui en moi soulève ce genre de questions. Justement, la marche sur les eaux. Nous allons d'abord lire le texte, puis je vais vous expliquer pourquoi cette histoire me pose plus de questions que les autres miracles. Alors, le texte se trouve dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur les lacs. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Oh là, l'image est un peu sombre. Alors je fais, on voit Jésus marchant sur le lac et puis je fais appel à votre imagination pour voir ici la barque avec les disciples. Bon, je pense que vous pouvez vous imaginer la scène. Alors, un premier élément qui distingue ce miracle de la plupart des autres miracles dans le Nouveau Testament est la façon manifeste dont cet événement contredit les lois de la nature. Si on fait la comparaison avec les guérisons, par exemple, là, je trouve que ce n'est pas toujours tellement clair, parce que le corps humain, c'est un système si complexe que nous n'arrivons pas très bien à prédire ce qui va se passer avec les maladies et tout. Donc, ce n'est pas si étonnant que des maladies, des fois, disparaissent de manière inexplicable. Ou bien un autre exemple, la tempête apaisée. Nous avons déjà tous vécu des changements de temps imprévus. Peut-être que Jésus a juste saisi le bon moment pour menacer les vents et la mer. Mais ce genre d'explication serait complètement déplacé dans le cas d'un homme qui marche sur l'eau. Là, il y a clairement quelque chose qui ne marche pas avec la physique comme nous la connaissons. Alors cet aspect me permet d'éliminer un malentendu concernant les miracles. C'est en fait un malentendu fondamental. Vous savez peut-être que j'ai étudié la physique et on me pose des fois la question « Comment peux-tu quand même croire aux miracles ?» J'avoue que je ne comprends pas très bien le « quand même » dans cette phrase. Parce qu'en fait, être scientifique, ça change quoi par rapport aux miracles ? Les gens pensent, paraît-il, que c'était plus facile à croire aux miracles pour un paysan du 1er siècle que pour un scientifique du 21e. Mais pourquoi ? C'est vrai que moi, comme scientifique, je pourrais vous parler des forces intermoléculaires qui font qu'on ne peut pas marcher sur les eaux comme on marche sur les pierres. Mais cela n'importe pas du tout. Parce que même le paysan hébreu, et encore plus le pêcheur hébreu, bien qu'il n'eût aucune idée de ces théories modernes, savait parfaitement bien ce qui se passerait si on essaierait de marcher sur l'eau. On n'a certainement pas besoin d'une théorie scientifique pour savoir que ceci n'est pas possible dans les circonstances normales. Bref, le récit d'un homme marchant sur les eaux n'était pas moins scandaleux à l'époque qu'il l'est aujourd'hui. S'il y a une différence pertinente entre les gens de l'Antiquité et nous, elle ne concerne pas tellement le progrès scientifique, mais un changement plutôt philosophique dans notre conception de la nature. Aujourd'hui, nous définissons peut-être les miracles comme des violations des lois de la nature. Je l'ai écrit comme ça, et vous n'avez pas protesté. Mais je suis presque sûr qu'un contemporain de Jésus ne s'exprimerait pas ainsi. Et même s'il le faisait, il n'aurait pas du tout la même idée des lois de la nature que nous. Pour lui, surtout s'il était juif, ça serait impossible de parler des lois de la nature sans également parler de celui qui a établi ces lois, le Dieu créateur tout-puissant. Par contre, nous avons aujourd'hui une tendance fatale à regarder la nature comme un système autonome qui fonctionne selon ses propres lois. Et nous évitons de parler du législateur. Selon cette vision, un miracle est une intrusion qui va à l'encontre de la logique du système. Comme si un enfant commence à tourner aléatoirement des roues dans un mouvement d'horlogerie compliqué. Or, la nature n'est pas quelque chose qui existe indépendamment de Dieu. Et Dieu n'est pas un intrus illégitime. Il est le Créateur qui est à l'origine de toute chose, que ça soit conforme aux lois de la nature ou non. Si nous avons aujourd'hui plus de peine à croire aux miracles que les gens de l'Antiquité, je dirais que ceci n'est pas dû au progrès scientifique, mais à un certain préjugé idéologique. Dans son livre sur les miracles, l'auteur anglais C.S. Lewis utilise une analogie qui peut nous aider à comprendre la relation entre les miracles et les lois de la nature. Lewis, il compare le monde et son histoire à une œuvre d'art, et Dieu à l'artiste qui a créé cette œuvre. Maintenant, chaque art a ses règles qu'un artiste doit maîtriser s'il veut produire des œuvres de qualité. Pourtant, les véritables chefs d'œuvre ne sont pas ceux qui respectent servilement toutes les règles. Au contraire, un vrai maître sait dans quelle mesure il peut ou même doit briser les lois pour créer des œuvres extraordinaires. Ceci n'a rien d'aléatoire, mais c'est sujet à ce qu'on pourrait appeler la logique de l'œuvre. C'est une logique bien plus profonde que le simple respect des règles. Il en va de même pour les miracles de Dieu. Ce ne sont pas des violations aléatoires des lois de la nature, mais des événements significatifs dans le plan de Dieu. Quand Dieu écrit l'histoire de l'humanité, il y inclut des passages qui se conforment aux lois de la nature et d'autres qui, à des moments déterminés, brisent ces lois en faveur d'une logique plus profonde, celle du royaume de Dieu. Cela nous amène au deuxième aspect qui distingue ce miracle de tous les autres miracles du Nouveau Testament. Les miracles, en général, ne sont pas seulement des manifestations du pouvoir du Christ, ça c'est clairement le cas ici, mais normalement c'est aussi des signes annonciateurs du nouveau royaume de Dieu. Les guérisons, par exemple, nous annoncent un nouveau monde sans maladie. Les exorcismes et les résurrections annoncent la fin des pouvoirs des démons et de la mort. La tempête apaisée annonce la paix de Dieu qui régnera. Et puis, il y a les miracles qui nous parlent de l'abondance dont nous jouirons en termes de vin, de pain et de poisson. Même le miracle qui est peut-être le plus bizarre dans la vie de Jésus, je parle de la malédiction du figuier, peut être compris comme un signe pour le nouveau monde où aucun arbre ne manquera de fruits. Mais la marche sur les eaux, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le royaume à venir ? J'avoue que, à première vue, je ne vois pas de réponse simple à cette question. Une autre manière d'exprimer ce contraste est, entre cette histoire et les autres miracles est de se rendre compte que presque tous les autres miracles abordent des sérieux problèmes qui menacent le bien-être soit d'une personne ou même d'un groupe. Par exemple, une maladie, une souffrance, le décès d'un proche, une pénurie de nourriture ou de vin, une tempête. Mais dans cette histoire-là, quel est le problème qui est résolu par le miracle? On pourrait peut-être dire que les disciples étaient en danger dans leur barque parce qu'il y avait un vent fort cette nuit-là, c'est vrai. Donc Jésus a peut-être dû marcher sur l'eau pour leur apporter de l'aide. Mais ce n'explique pas pourquoi il appelle Pierre à sortir de la barque. Là, au lieu de résoudre un problème, il paraît que Jésus en crée un nouveau, parce qu'il faudra ensuite empêcher la noyade de Pierre. En résumé, il est dans cette histoire un peu plus difficile de voir la signification et la dimension rédemptrice qui est clairement présente dans les autres miracles. Pourtant, le récit de la marche sur les eaux occupe une position centrale dans l'évangile de Matthieu. Regardons ensemble quelques extraits des chapitres 11 à 14 de l'évangile de Matthieu qui reviennent sans cesse à une seule question. Qui est Jésus? Ça commence avec la question posée par Jean-Baptiste dans Matthieu 11, 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Dans sa réponse à cette question, Jésus parle justement de ces signes annonciateurs que je viens de mentionner, les guérisons, les résurrections. Et ce sont ces mêmes signes qui provoquent la question de la foule dans Matthieu 12, 23. N'est-ce pas là le fils de David? C'est-à-dire, Jésus est-il le Messie promis? La question en ce moment reste en suspens et les opinions divergent. Par exemple, dans la ville d'origine de Jésus, on pose la question « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier ?» Et la tension et la confusion augmentent encore quand Hérode intervient dans le débat en disant « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » Et c'est là que Matthieu nous donne le récit de la marche sur les eaux, ce que j'ai symbolisé ici avec l'image de tout à l'heure. Donc chapitre 14, 22 à 33. Et là, nous obtenons finalement une réponse claire et nette à la question « Qui est Jésus ?» Nous l'avons déjà entendu. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Je dois donc revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la difficulté de voir la signification de ce miracle. En tout cas, les personnes qui ont assisté à cet événement n'ont pas du tout eu cette difficulté. Pour eux, l'affaire était apparemment significative au plus haut point. Faisons donc encore un effort et creusons un peu plus pour saisir la signification de ce miracle. Ça vaut la peine. Si nous sommes un peu plus attentifs en relisant le texte de ce matin, je reviens. Nous voyons qu'il y a bel et bien une connexion avec l'œuvre rédemptrice de Dieu. Tout comme dans beaucoup d'autres rapports de miracles, nous y voyons un homme qui s'écrie du fond du cœur « Seigneur, sauve-moi ». La seule différence est que Pierre ici prononce ses paroles après que le miracle s'est passé. Ainsi, cette histoire peut nous enseigner une leçon importante qu'on oublie facilement si on regarde les autres miracles. Ce n'est pas le miracle qui sauve. Il a besoin d'être sauvé après le miracle. C'est la confiance en Jésus qui sauve. Jésus dit souvent aux personnes qu'il a guéries « Ta foi t'a sauvé », pour souligner que le miracle n'est qu'une manifestation de la foi qui, elle, fait toute la différence. Ici, le miracle a une fonction opposée. Il met en évidence que la foi de Pierre n'est pas encore assez grande. Plus généralement, cet exemple, cette histoire, nous montre qu'une augmentation de notre autorité peut être dangereuse si elle n'est pas accompagnée d'une augmentation de notre confiance en Jésus. J'ai l'impression que la situation de l'humanité dans notre époque est similaire à celle de Pierre dans cette histoire. Nous avons, par la grâce de Dieu, appris à contrôler et à manipuler la nature dans une mesure qui pourrait paraître assez miraculeuse ou bien aussi miraculeuse que la capacité de marcher sur l'eau. Je parle des prodiges de la technologie de notre temps. Mais comme notre relation avec Dieu est faible, nous utilisons souvent cette autorité pour nous détruire nous-mêmes. Si on regarde ce que les hommes aujourd'hui sont capables de faire, nous ne pouvons que crier comme Pierre, « Seigneur, sauve-nous !» Jésus a répondu à ce cri de Pierre en lui tendant la main. Est-ce qu'il fait la même chose pour nous? Je crois que oui. Mais ça ne veut pas dire que nous pouvons rester passifs et attendre qu'il résolve tous les problèmes pour nous. Il nous appelle à travailler avec lui, avec le peu de foi que nous avons. Nous trouvons une illustration de comment ça se passe dans l'histoire de la multiplication des pains, dans Matthieu 14. Là aussi, les disciples se trouvent confrontés à des besoins qui dépassent largement leurs ressources. 5 000 hommes affamés et seulement 5 pains et 2 poissons pour les nourrir. Pourtant, Jésus dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Il nous appelle donc à investir le peu que nous avons et il va faire en sorte que ça suffise. De la même façon, Pierre est sorti de la barque avec la foi qu'il avait et Jésus le sauvait lorsque son manque de foi est devenu évident. D'ailleurs, ce n'est pas un accident que je vous parle de la multiplication des pains en connexion avec le miracle de la marche sur les eaux. L'évangéliste Matthieu fait exactement la même chose et il le fait d'une manière très particulière. Alors, il nous raconte 2 épisodes où Jésus nourrit une grande foule. Une fois 5 000 hommes, dans le chapitre 14, et une fois 4 000 hommes, chapitre 15. Donc, il place ces 2 épisodes juste avant et après la marche sur les eaux, chapitre 14. Et ça crée une structure d'encadrement qui souligne les connexions entre les deux histoires dont je viens de parler. Alors, ça c'est ce que j'appellerais le cadre intérieur, ce que j'ai mis en vert ici. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le voyez, Matthieu, dans son évangile, il place encore un deuxième cadre autour de la structure dont nous venons de parler. Là aussi, il rapporte deux événements très similaires, une fois avant la marche sur les eaux et les multiplications des pains, et une fois après ces événements. Il s'agit des discussions avec les spécialistes de la loi, les pharisiens et les sadducéens, qui demandent de Jésus un signe miraculeux. Jésus leur donne deux fois la même réponse. C'est dans Matthieu 12 et puis dans Matthieu 16. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. J'aimerais terminer mon message en vous proposant une idée sur la connexion entre ces réponses et le récit de la marche sur les eaux. Cette idée est peut-être un peu spéculative, mais elle me touche profondément depuis que je l'ai découverte. C'est pourquoi je veux la partager avec vous. Lorsque nous entendons le nom de Jonas, nous pensons tout de suite à l'histoire du grand poisson qu'il a avalé et puis rejeté sur la terre. Jésus aussi comparait les 3 jours que Jonas a passés dans le ventre du poisson aux 3 jours entre la crucifixion et la résurrection. Mais si nous cherchons maintenant un rapport entre l'histoire de Jonas et la marche sur les eaux, je pense qu'il faut regarder ailleurs. Il y a un élément particulier que les deux histoires ont en commun. C'est qu'il y a une tempête qui s'arrête à un moment précis. Mais il y a une différence cruciale. Dans l'histoire de Jonas, la tempête s'arrête au moment où les marins jettent Jonas dans la mer, après qu'il leur a avoué que c'était lui qui avait provoqué la tempête par sa désobéissance envers Dieu. Dans l'histoire que nous avons lue ce matin, la tempête s'arrête dans le moment où Jésus monte dans la barque. Vous voyez ce qui se passe là? Jésus apporte un changement absolument révolutionnaire dans la conception du salut. Dans l'ancienne alliance, représentée dans le Nouveau Testament par les spécialistes de la loi, les pharisiens, les sadducéens, on cherchait à parvenir au salut en s'éloignant de tout ce qui pourrait rendre impur. Il fallait donc jeter l'homme injuste hors du bateau pour que la tempête s'arrête. D'ailleurs, tout le débat entre Jésus et les pharisiens sur ce qui rend l'homme impur se trouve dans Matthieu 15, donc aussi à l'intérieur de ce cadre, mais on n'a malheureusement pas le temps d'entrer là-dessus. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas l'homme injuste qui doit être jeté dans la mer, mais c'est l'homme juste, Jésus-Christ, qui entre dans notre bateau, et la tempête s'arrête. C'est Dieu qui vient vers nous, en nous envoyant son Fils. Et en lui, il nous apporte la justice, la paix, le salut. Je crois que ceux qui étaient sur cette barque cette nuit-là ont compris quelque chose de cette révolution quand ils se sont prosternés devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Je nous invite à les rejoindre dans cette confession. Que le Seigneur vous bénisse.